Orthodoxie nous propose ce matin un entretien avec Marc Andronikov à l'occasion de la parution de son livre Médecins aux urgences.
Marc Andronikov, vous êtes médecin, vous êtes cofondateur de l'Association orthodoxe d'études bioéthiques et actuellement chef de service des urgences à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Vous avez publié récemment le livre Médecins aux urgences et j'ai cru comprendre que la publication de ce livre a été comme une urgence pour vous.
Oui. Vous avez raison de dire ça comme ça. J'ai publié ce livre peu de temps après être devenu chef de service de ce service d'urgence à Clamart, dans la banlieue parisienne. Et les urgences sont au centre de beaucoup de choses. Et donc ce livre est devenu comme une nécessité, comme vous dites, pour exposer tout ce qu'un médecin, un médecin chrétien, pouvait ressentir en étant dans un endroit qui est pivot à l'hôpital et pivot finalement dans le système de soins en France.
Une particularité de ce livre, c'est qu'il a été écrit comme un entretien.
Oui, c'est ce qui favorise, je pense, beaucoup la lecture. Donc on a écrit à deux avec Jacqueline Dauxois, qui est écrivain de son métier, orthodoxe, et qui s'intéressait aux questions de santé, aux questions éthiques, de bioéthique, et qui avait envie d'avoir, sinon des réponses, au moins un échange avec un professionnel qui réfléchissait sur toutes ces questions. Donc elle est venue me trouver et pour essayer de me faire sortir, si vous voulez, des choses que je pouvais porter en moi. Et donc nous avons fait ce livre à deux, par une série de questions-réponses.
Elle avait lu, paraît-il, votre thèse et sans doute aussi le livre Transplantation d'organes et éthique chrétienne,
oui,
qui je voulais d'ailleurs signaler à nos téléspectateurs, oui, qui est le stade précédent de votre réflexion sur ce sujet.
Oui, c'était il y a plus de 10 ans, j'avais sorti ce livre, qui était, je pense, le premier livre d'un médecin orthodoxe, en tout cas en France et probablement en Occident, qui se posait des questions de bioéthique. Là, Jacqueline Dauxois a voulu qu'on élargisse toutes ces questions d'éthique, de bioéthique et de rapport de l'homme à la santé, du médecin avec ses patients, etc.
Alors justement, le médecin aux urgences, quels sont les thèmes principaux de ce livre?
Les thèmes sont très divers et s'entremêlent, mais il y a quand même une structure assez claire, je pense. Il y a un premier thème, c'est la vie dans un hôpital, comment ça s'organise, quels sont les rapports humains avec les soignants entre eux, avec l'administration, comment on peut diriger un service actuellement en France, qui n'est pas facile. Bref, des questions, ce qu'on appellerait maintenant de management.
C'est-à-dire, il y a la vie de l'hôpital et il y a la vie dans l'hôpital.
Exactement.
Pas forcément la même chose.
Non, non, tout à fait. Et puis, il y a la vie aussi donc des soignants, des rapports des soignants avec les malades, donc ce qui est le rôle des médecins et d'un service d'urgence plus évident, en tout cas, qui est assez beaucoup exposé. Et vous savez que les urgences sont un endroit où les gens... C'est un recours au cours des crises. Et donc c'est toujours un moment de crise pour que les gens viennent y consulter. Donc nous sommes en fait ce centre qui cristallise et qui doit répondre à des crises. Donc toutes les patients sont assez exacerbés. Et donc ça aussi c'est une façon de travailler qui est particulière et que j'expose.
C'est donc un centre où vous êtes constamment affronté à des tragédies humaines.
Oui, des tragédies relatives ou des tragédies vraies, donc, mais toujours une crise en fait, qui peut être une crise d'existence, comme après une tentative de suicide ou après un désespoir, ou des crises de santé évidentes comme un infarctus du myocarde, ou un accident,
un accident
de la route. Donc nous avons tout ça tous les jours. Et ce qui est particulier aux urgences, c'est que tout s'entremêle, n'est-ce pas? C'est donc l'alcoolique qui crie la nuit parce qu'il a trop bu, en même temps que vient quelqu'un amené par les pompiers parce qu'il a eu un accident de voiture ou de moto, ou plus quelqu'un qui arrive parce qu'il fait un infarctus, et tout ça s'entremêle. Donc c'est difficile pour les gens qui y sont, c'est difficile aussi pour les gens qui les prennent en charge, et donc on développe des stratégies de prise en charge.
Donc vous avez très souvent aussi affaire à des souffrances, comme on dit, de fin de vie.
Oui, donc ça c'est l'autre crise qui est plus inattendue dans un service d'urgence, mais qui fait partie maintenant de notre quotidien. Ce sont les personnes très âgées ou très malades, ce n'est pas toujours les mêmes, qui viennent aux urgences parce que c'est la fin. Et comme c'est difficile à notre époque de mourir chez soi, ou en tout cas d'agoniser chez soi, souvent il y a un recours aux urgences. Et donc ça c'est quelque chose d'assez nouveau, depuis je dirais une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, que s'est beaucoup développé cette prise en charge de finalement de sortes de soins palliatifs ou de résolution de crise, d'agonie ou de mort aux urgences.
Il faudrait peut-être dire quelques mots là du point de vue orthodoxe, chrétien, sur ce fait que les gens, ce fait de société.
Oui.
Que les gens meurent de moins en moins souvent chez eux,
oui.
C'est-à-dire entourés des leurs, et que la société a tendance, comme c'est pratiquement fait en Amérique, et ça commence très fortement chez nous aussi, que la mort ne fait plus partie de la vie.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Alors,
nous vivons une sorte d'isolement, c'est une sorte d'atomisation de la société et des gens dans cette société, avec une segmentation,
voilà.
Et donc on ne reste plus en famille, quand ça va mal, on est vite institutionnalisé, ou on reste seul, et combien de personnes âgées on a qui sont seules chez elles, et donc quand ça va mal, eh bien ils n'ont pas tellement de recours, un peu les voisins quand il y en a, ou la famille est loin quand il y en a une, et donc souvent ils arrivent aux urgences pour quand ça va mal, et donc là il faut qu'on voit, il y a tout un travail à faire. Et pour un orthodoxe, c'est peut-être plus facile que pour d'autres personnes, parce que nous avons gardé cette tradition quand même d'entourer, exactement. Il y a quand même ce lien familial ou ecclésial qui reste très fort et que j'espère, forcément restera toujours, parce que ça fait partie de notre tradition.
Mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Par un médecin, que ça soit rappelé par un médecin, mais il faut aussi le rappeler dans nos paroisses pour que les gens n'oublient pas, parce que la vie est faite de telle sorte que des personnes disparaissent et des fois ça se passe presque inaperçu. Et puis après, quelque temps, on apprend, cette personne est décédée,
oui, ça,
et on dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que...
Oui.
Ça c'est des choses inadmissibles.
Oui.
Il faudrait que là-dessus, tout le monde soit sensibilisé.
Alors,
un autre point de cette fin de vie, c'est sans doute un sujet qui est un sujet brûlant de nos jours, c'est la question de l'euthanasie.
Oui, bien sûr. Donc, aux urgences...
Je dis bien de l'euthanasie.
Oui. L'euthanasie que l'on prend comme le fait de faire mourir quelqu'un, en fait. C'est, si on prend ça dans ce sens-là. Oui, donc c'est une des questions qui viennent surtout des pays du Nord, Hollande, Amérique, Belgique, où il y a toute une pression pour que on abrège la souffrance des gens en leur injectant des produits qui les font mourir. Donc pour l'instant, en France, c'est interdit. Je suppose, heureusement, il y a des pressions pour qu'on légifère sur la question, qu'on fasse des lois. Mais je pense qu'aucune loi ne peut remplacer ni la compassion, ni le sens éthique. Et donc aussi, aux urgences, on est parfois confronté à cette question, à laquelle on ne peut répondre que par une attitude très forte de toute l'équipe, qui est soudé autour de valeurs communes, ce qui n'est pas facile dans notre société. Donc il faut inculquer, en fait, il faut avoir une sorte de corps de valeurs communes dans un service pour agir toujours de la même façon. Parce que ce qui est terrible dans un service hospitalier ou ailleurs, c'est quand les avis sont différents. Ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc nous avons essayé d'instituer dans mon service, en tout cas, une sorte de consensus fort où on suit les choses, on se met d'accord au départ, et puis on les suit. On se met d'accord au départ entre nous, mais aussi avec les familles, avec les gens eux-mêmes, dans la mesure où on peut le faire, et on fait bloc. Et donc on résiste un peu parfois aux volontés des familles qui veulent aller un peu plus vite, ça aller un peu plus vite. Souvent les familles ont du mal à comprendre que ça traîne un peu, que voilà. Donc, ça, il faut bien leur expliquer.
Et ça c'est une attitude nouvelle. Enfin, vous en parlez dans votre livre, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, quelle doit être la vraie attitude?
Vous savez, c'est difficile de dire la vraie attitude. Je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'attendent les familles, de leur niveau d'attachement à la vie matérielle. Vous savez, nous avons beaucoup de techniques maintenant qui peuvent prolonger les gens très longtemps. Des sondes, des oxygènes, des perfusions, plein de choses qui font que on peut maintenir longtemps. Alors, il faut trouver le seuil. Et je ne pense pas qu'il y ait un seuil le même pour tout le monde. Et je pense que c'est un consensus à trouver autour encore une fois, de ce qui fonde les valeurs. Et je pense que ce que je dis, en tout cas, moi, c'est que quand les choses vont un peu loin, il faut essayer de retrouver des choses un peu naturelles et de se dégager de la technique. Et là, ça devient plus simple.
Comme vous avez dit tout à l'heure, si on comprend le mot euthanasie, non pas dans le sens linguistique et étymologique, vous dites faire mourir quelqu'un.
Oui.
Alors là, d'emblée, ça devient très grave.
Oui, bien sûr. Oui,
parce que
oui.
C'est... Bon,
ce qu'il faut, c'est accompagner, vous savez. Donc il y a tous les soins palliatifs qui se sont développés en France depuis une quinzaine d'années, qui ont apporté beaucoup, justement dans l'idée de l'accompagnement. Les gens sont terrorisés, en fait, d'être seuls, de souffrir, de ne pas avoir de recours. Et donc dans ces structures de soins palliatifs, et aussi dans ces structures de médecine, et aussi aux urgences, on essaye d'apporter cet entourage. On favorise beaucoup le fait que les familles soient présentes, qu'elles n'aient pas peur. Donc on essaie d'accompagner au mieux qu'on peut. Et c'est un peu paradoxal de voir qu'aux urgences, on accompagne les fins de vie qui peuvent durer plusieurs jours. Mais on essaie de le faire le mieux qu'on peut. Justement, et je crois que les gens sont assez sensibles au fait qu'il n'y a pas d'abandon. Donc il n'est pas question d'accélérer quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus question de s'acharner, justement, en ne mettant pas en place la technique, ou en tout cas s'en méfiant, et en accompagnant du mieux qu'on peut les gens, bien sûr pour ne pas qu'ils souffrent, et déjà le fait qu'ils soient entourés permet de baisser un peu l'angoisse.
Et de toute façon, si ça dure plus longtemps que quelques jours, les gens quittent les urgences et vont dans l'hôpital.
Oui.
Normal.
Oui, mais c'est pas si facile, parce que c'est un des problèmes dont je parle. Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des places d'hospitalisation, des lits pour hospitaliser les malades qui doivent rester. Il y a eu une contraction du nombre de lits en France depuis 20 ans, de moins en moins chaque année.
Et donc, des lits d'hôpital?
Oui, des lits d'hôpital. Il y a, je sais pas combien, 90 000 lits en moins en 15 ans.
Donc, c'est une catastrophe.
Alors, ça répondait à des impératifs économiques, de gestion, d'amélioration des rotations sur les lits. Mais du coup, nous avons énormément de difficultés à trouver des places pour placer des malades qui auraient besoin de places. On parle de fin de vie, mais c'est vrai pour toutes les spécialités, pour tout. C'est très difficile.
Est-ce qu'à l'horizon, il y a un espoir d'amélioration?
Non, aucun espoir d'amélioration de fond, puisque tous les pays occidentaux souffrent du même problème. Si vous lisez ce qui se passe aux États-Unis, ce sont des files de malades dans les urgences qui ne trouvent pas de place. Donc c'est une tendance lourde, comme on dit, du système hospitalier occidental. Bien sûr, le vieillissement de la population ne favorise pas non plus les choses, puisque les gens sont de plus en plus âgés, donc ont besoin de plus en plus de soins, sont de plus en plus dépendants, et donc il y a un retard aussi en France sur les maisons de retraite, sur la prise en charge à long terme.
Faudrait croire que c'est une urgence absolue pour n'importe quel gouvernement pour faire le nécessaire, se réjouir que les gens vivent plus longtemps et faciliter cette vie.
Oui,
ça me paraît assez étonnant que c'est pas clair pour tout le monde.
Il y a une prise de conscience qui a été lente.
Retardée,
exactement. Mais je crois que maintenant, il y a une prise de conscience. Maintenant, il faut que ça passe dans
les têtes. Je pense que votre livre va contribuer à cette prise de conscience.
Peut-être.
Alors, à côté de l'euthanasie, aux urgences également, vous avez des fois des cas de transplantation d'organes.
Oui, alors heureusement pas aux urgences, mais c'est une question qui peut se poser sur les
gens. Qui est liée aux urgences, de quelle façon?
Alors, c'est lié aux urgences dans la mesure où les prélèvements se font sur des gens qui souvent ont eu un accident de voiture ou un accident cérébral qui fait qu'ils arrivent, ils peuvent arriver aux urgences dans un état critique, mais le plus souvent ils vont quand même directement en réanimation. Donc ce sont des questions qui se posent plus aux réanimateurs. Néanmoins, le début de ma réflexion éthique est parti de ces questions de transplantation d'organes, qui sont une question de fond aussi dans notre société,
bien sûr.
Qui pose beaucoup de problèmes sur la mort, sur la définition de la mort, sur jusqu'où on veut aller pour rester en vie, etc.
Bon, j'ai vu tout à l'heure un papier que vous m'avez montré, qui vient d'Amérique,
oui.
Qui pose la question, est-il indifférent que ceux auxquels on prélève des organes sont toujours en vie,
oui.
Et que le fait de les enlever, au fond, les tue.
En France, depuis peu de temps, il y a une définition de la mort qui repose sur la mort encéphalique. Autrement dit, quand il y a un coma tel que les gens ne pourront jamais revenir et qu'ils sont obligés d'avoir des machines pour respirer, pour tout en fait, puisque le cerveau ne marche plus. Donc la définition de la mort en France repose sur une incompétence du cerveau, disons. J'ai été le premier, je pense, à m'élever il y a 15 ans sur cette définition de la mort.
Contre cette
définition de la mort, puisque c'est extrêmement réducteur et finalement pas du tout réel, puisque tout fonctionne sauf une partie du cerveau, et là on dit que les gens sont morts. Mais c'est une pétition de principe, si vous voulez. Mais c'est maintenant inscrit dans la loi en France. Et ce qui est paradoxal, quelques années, pas longtemps. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est inscrit dans la loi en France, et en même temps, aux États-Unis, en Angleterre, on se pose toutes ces questions qui sortent dans des articles en disant « mais personne ne peut dire que ces gens-là sont morts ». Donc c'est un paradoxe de sorte de retard, encore une fois, à l'allumage en France, où maintenant les gens sérieux et honnêtes disent bien que les gens ne sont pas morts. Et on ne peut pas le dire qu'ils le sont, en tout cas. Mais, bon, il y a la pratique des transplantations, donc pourrait-on quand même les prélever, puisqu'on ne peut rien faire pour eux. Mais ils ont bien compris qu'en fait, personne ne peut dire qu'ils sont morts. En France, c'est inscrit dans la loi. Mais donc, il faudra attendre encore un cycle, quelques années, pour qu'il y ait une prise de conscience en France aussi.
Mais il y a parmi vos confrères aussi de plus en plus de personnes compétentes qui soutiennent cette idée que cette mort purement oui. cérébrale n'est pas vraiment une mort.
Oui, mais il suffit de réfléchir un peu.
Non, je veux dire, il y a des confrères qui soutiennent cette idée.
Bien sûr, oui.
Avec vous.
Oui, bien sûr. Notamment beaucoup de confrères en Amérique et en Angleterre, et enfin bref, des gens qui essaient de réfléchir sans pression idéologique, ça paraît assez évident. Maintenant, c'est difficile de faire passer le message alors qu'il y a une forte pression depuis une quarantaine d'années pour faire équivaloir une incompétence du cerveau avec la mort.
Alors, puisque nous sommes parmi les questions graves qui sont posées dans le livre, il y a aussi un autre sujet que vous abordez dans le livre sont les techniques de procréation médicalement assistée. Oui. Et je dois dire, je ne me rendais pas compte que ça peut avoir aussi trait aux urgences.
Non, ça n'a pas vraiment trait aux urgences. C'est simplement l'ouverture éthique que nous avons eue dans ce livre. C'est la dernière partie du livre. C'est quand même un sujet brûlant dans l'actualité, on en parle beaucoup, et on assiste dans notre société à une sorte d'affrontement, une sorte d'opposition frontale entre ceux qui pensent qu'il faudrait interdire certaines pratiques et ceux qui pensent qu'il faut obligatoirement les faire. Et en fait, c'est une sorte d'affrontement entre ceux qui pensent que il faut faire tout ce qu'on peut faire, et puisqu'on peut le faire, il faut le faire, c'est forcément bon. et d'autres qui pensent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, même si on peut le faire, et donc qu'il faudrait les interdire par la loi. Peut-être que la position orthodoxe pourrait être un peu différente, une sorte de voie alterne pour essayer de réconcilier les contraires. Je ne pense pas que l'orthodoxe souhaite les interdits. En revanche, c'est saint Paul qui disait qu'on peut tout faire, mais que tout ne convient pas. Hein, tout n'est pas efficace, tout n'est pas
profitable.
N'est pas profitable, voilà. Donc il n'y a pas d'interdit, mais il y a ce qui est profitable et ce qui n'est pas profitable. Et c'est pour ça que la réflexion éthique chrétienne, orthodoxe, part de ce qui est la recherche de ce qui est profitable. Donc qu'est-ce qui est profitable pour un chrétien? C'est, je pense que personne ne pourra me contredire, c'est l'héritage de la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Et donc si on pose ça dans cette façon-là, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est profitable. Vous savez, là où est mon cœur, là est le trésor. Donc il faut voir où on met le trésor. Donc si on met le trésor sur l'obtention de l'héritage du royaume, la vie éternelle, beaucoup de questions tombent d'elles-mêmes, en fait. La question n'est plus de savoir s'il faut obligatoirement avoir un enfant au prix de dizaines d'embryons qu'après on congèle et dont on ne sait pas quoi faire. C'est poser ces questions en ces termes-là. Et donc si on pose ces questions en termes-là, tout devient beaucoup plus simple. Et tant pis s'il y a des choses qui se font, mais c'est à moi de ne pas les vouloir. Vous savez, je prends aussi l'exemple de j'ai une moto, je peux rouler très vite, je peux rouler à 200 à l'heure, par exemple, en ville, mais je ne le fais pas, je ne veux pas le faire, même si je peux le faire. Et donc l'idée, c'est, je pense, de se dire que ce n'est pas parce qu'on peut faire des choses qu'on veut vouloir les faire. Et ça, beaucoup de choses, des problèmes éthiques peuvent finalement tomber et se résoudre de cette façon-là. De ne pas vouloir soi-même des choses qu'éventuellement on pourrait faire. Mais c'est difficile d'y résister, parce qu'il y a une forte pression à la fois sociale, en fait un peu du mouvement général, contre lequel il faut prendre du recul, oui, avant de se dire, bon, ben de partager les choses. Et je crois que c'est une chose que j'ai essayé de montrer dans mon livre.
Tout à fait, tout à fait. Et j'imagine que les questions de sexualité et fertilité,
oui,
demandent une telle approche,
oui,
que vous avez esquissée à,
oui,
à l'instant.
Qui est une approche, je pense, on peut se mettre d'accord, orthodoxe, en fait.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Non pas de autorisation interdite, etc., mais de ce qui est bon à faire ou pas, pour toujours dans cette optique de long terme ontologique.
Oui, et non pas juridique, mais éthique.
Voilà, c'est ça, exactement. On sort ainsi du juridisme, de la légalité.
Comme vous dites, c'est un vaste programme.
Oui, c'est un vaste programme, effectivement.
Mais,
c'est le programme de toute une vie, en fait.
Oui, c'est ça. Et bien, vous êtes encore jeune, ça va.
Oui, c'est le programme d'une vie, c'est le programme un peu de ce que nous propose l'Église.
C'est ça. En fait, si je comprends bien, on a évoqué maintenant des domaines très, très divers.
Oui. Hein, mmh.
Mais l'unité du livre lui vient justement de cette...
cette approche orthodoxe.
Approche orthodoxe,
oui,
de ce point de vue qui unit,
oui,
toutes ces...
Alors, je ne dis pas que j'ai trouvé la solution à tout, mais en tout cas, j'essaie d'apporter une vision globale sur des questions diverses, en essayant de trouver la voie orthodoxe, en fait, qui est quand même proposée depuis 2000 ans, et par des grands penseurs, des grands saints, et par toute une tradition qu'on essaye de suivre et de repérer, si vous voulez, dont on essaie de repérer la trace. Bien sûr, l'Église n'avait pas pensé aux procréations médicalement assistées, mais il y avait déjà une vision de l'homme, y compris dans l'embryon, de tout ça. Donc c'est une vision anthropologique complète dont il faut retrouver la trace.
Oui.
Dans des exemples un peu précis et modernes.
D'ailleurs, il y a des recherches sur, par exemple, l'approche des questions médicales chez les pères, sur,
oui,
les maladies, même les maladies mentales.
Bien entendu.
Il y a toutes sortes d'études intéressantes.
Oui, je pense qu'en France, Jean-Claude Larcher, qui a beaucoup publié sur toutes ces questions, montre un éclairage, donne un éclairage fondamental sur ça, dont je m'inspire beaucoup, bien sûr, et dont tout le monde devrait s'inspirer, parce qu'il remonte, il fait remonter finalement les textes qui sont d'actualité toujours, puisque c'est des questions de vie et de mort que tout le monde se pose depuis la nuit des temps, et à laquelle finalement il y a une conception orthodoxe quand même de l'homme qui est particulière et qu'il faut ne pas oublier.
Au fond, tout cela revient à dire qu'il faut révaloriser l'anthropologie patristique,
oui. Hein,
qui vient de la Bible, du Nouveau Testament, et qui a été développée par le Père de l'Église, et qui, au fond, est le cadre nécessaire toute approche orthodoxe, parce que c'est eux qui ont donné la clé pour cela.
Tout à fait, Père, tout à fait. Et la difficulté, c'est que ça... On nous le fait oublier. Encore une fois, il y a une telle pression sociale. Personne ne parle des pères ni à la télévision, ni nulle part. Il y a une telle pression permanente de tout le monde qu'il faut un effort volontaire pour y retourner. Et c'est une chose que l'Église nous aide à faire, bien sûr. Mais il y a aussi des écrits qui nous invitent à le faire.
C'est un peu comme avec certains aspects de la tradition canonique de l'Église, on dit c'est un problème nouveau, du jamais vu, et on oublie que même si concrètement c'est quelque chose de relativement nouveau, le principe de telle question est résolu depuis longtemps.
Absolument.
Et on peut les trouver.
Absolument. Tout à fait. Et je pense que c'est une erreur d'essayer de partir d'apporter une réponse un peu toute faite comme ça sur des cas précis, parce que ça morcelle la pensée. Et il faut essayer toujours de voir ça dans un monde général, dans l'univers orthodoxe.
D'ailleurs, comme j'ai dit au début, vous êtes cofondateur de l'Association orthodoxe des études bioéthiques.
Oui.
On peut dire que cette association qui a maintenant déjà
10 ans,
il y a eu 6 ou 7 conférences, des publications, et on peut dire que c'est un travail important qui a eu un écho très fort, au moins dans le milieu orthodoxe, mais au-delà aussi du milieu orthodoxe, c'est d'autres chrétiens qui se penchent sur les mêmes questions et qui ont trouvé qui ont découvert les pères, la réponse des pères aux questions qui se posaient. Donc c'est une bonne chose. Et nous avons toujours essayé d'être présents avec notre émission à ces congrès. J'espère que c'est un travail qui va se poursuivre.
Il se poursuit, bien sûr.
Est-ce qu'on a déjà fixé le sujet pour le prochain congrès?
C'est en discussion dans notre association. Je pense que ça devrait avoir lieu au mois de février 2008. Et les thèmes devraient être encore des thèmes, justement, d'anthropologie.
Oui. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et un succès avec le travail important que vous faites.
Merci.
Présence protestante nous invite maintenant au Café Biblique. Les invités de Virginia Crespo sont deux théologiens et un écrivain qui donnent lecture à un surprenant dialogue entre Dieu et Satan, dialogue figurant dans le livre de Job.
Bonjour. Il y avait dans le pays appelé Outz, un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est ainsi que commence le texte sur lequel nous allons tous réfléchir, essayer d'échanger, d'évider ensemble aujourd'hui sur ce plateau du Café Biblique. Et ce texte, vous allez le voir, propose un incroyable tête-à-tête entre Dieu et le diable. Alors, pour nous aider dans cette réflexion, trois invités sont avec nous et avec notre public.